Bonjour Sonra, j'ai fait un rêve cette nuit que je vous raconte. Mon téléphone sonne, je suis dans la montagne, mon téléphone sonne et là c'est Guy qui me dit « Mais tu es où pour le message ?» Et tout d'un coup je me réalise qu'en fait on avait changé d'heure et que j'étais un petit peu en retard, j'avais oublié de changer ma montre. Heureusement c'était un rêve et je vois que vous êtes tous là à l'heure ce matin, donc c'est formidable. Je vous propose de lire dans Marc, chapitre 1, versets 1 à 11. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel « Tu es mon Fils bien-aimé ». Tu as toute mon approbation. Un jour, un journaliste a demandé à Gandhi « Pourquoi est-ce que vous voyagez toujours en troisième classe ?» En France, on connaît la première, la deuxième classe dans les trains. En Inde, il y a aussi la troisième classe. Et Gandhi a simplement répondu « Ah, bah, vous savez, parce qu'en fait, il n'y a pas de quatrième classe. » Gandhi avait fait ce choix d'une vie de sobriété, de pauvreté, parce que pour lui, c'était un moyen de soutenir son combat politique, en particulier pour obtenir l'indépendance de l'Inde par rapport à la domination britannique. Et un jour que Gandhi est arrivé en face de Mussolini, qui avait pour une rencontre diplomatique, les enfants de Mussolini qui étaient là avec lui ont commencé à se moquer de son apparence de mendiant. Et Mussolini a repris ses enfants en disant « Cet homme décharné, qui n'a que la peau sur les os, est en train d'ébranler l'Empire britannique. » Comme quoi, parfois, les apparences sont trompeuses. Et en effet, le but principal de l'évangile de Marc, c'est de montrer comment Jésus-Christ, en tant que serviteur, a été en mesure de proposer l'avènement d'un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Marc présente dans son évangile Jésus comme le serviteur, le Messie et le Seigneur. Petit sondage, qui était là dans cette salle en 2015? Ok, donc ouais, ça fait un petit tiers de la salle à peine, 25% de la salle. On a déjà parcouru l'évangile de Marc en 2015, sur une courte période de 4 mois, donc c'était un survol général, et on vous propose ce matin de recommencer ce survol de Marc, 8 ans après, mais en s'arrêtant de manière beaucoup plus lente sur les différents passages qu'il compose. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de voir ensemble ce que Marc a à nous apprendre sur Jésus, le serviteur, et puis de nous arrêter sur ces 11 premiers versets qui introduisent cet évangile. Alors, quelle est la particularité de Marc par rapport aux autres évangiles? Vous savez qu'il y a 4 évangiles qui racontent la vie de Jésus. Marc, c'est l'évangile le plus court. Il n'y a que 16 chapitres. Pourquoi 4 évangiles? Alors, ce ne sont pas des biographies de Jésus. On n'apprend pas tout de la vie de Jésus de A à Z, mais chaque rédacteur, chaque auteur nous propose une perspective particulière sur le personnage qui est Jésus-Christ. Si aujourd'hui vous voulez savoir ce qui se passe sur le front de la guerre en Ukraine, vous avez besoin de plusieurs sources et de plusieurs personnes, de plusieurs regards pour savoir ce qui se passe exactement. Le gouvernement ukrainien a sa propre vision des choses. Les Russes ont une autre vision. Les combattants sur place ont une autre vision que les officiers, etc., etc. De la même manière, ces quatre évangélistes nous donnent quatre perspectives différentes sur Jésus. Mais ils ont tous un même but. Le but général des évangiles, c'est de présenter Jésus comme le Sauveur, comme le Seigneur, et de susciter notre foi dans ce Sauveur et dans ce Seigneur. Mais Marc a une particularité, insister sur Christ comme le serviteur. Et ça se voit d'entrée de jeu dans les choix que fait Marc au début de cet évangile. Par exemple, il n'y a pas de prologue, comme dans Jean, où Jean prend le soin de comparer Jésus avec la parole qui s'est fait chair, la lumière du monde, etc. Ici, on entre directement en matière. Il n'y a aucune référence à la naissance de Jésus. Pas de détails sur la crèche, sur les mages, sur les bergers, etc. Il faut aller dans Matthieu ou dans Luc pour ça. Il n'y a même aucune référence à Marie, ni à Joseph. Pourquoi ? Qui s'intéresse aux origines d'un serviteur ? Personne. Or, Marc veut présenter un serviteur. Il n'y a pas non plus de référence au contexte politique. Pas mention d'Hérode, pas mention de la domination romaine. Qui s'intéresse au contexte politique dans lequel vit un serviteur ? Un serviteur, il est là simplement pour servir. Ce qui compte avant tout, c'est ce que le serviteur fait. Et Marc, c'est l'évangile de l'action. L'action avant tout. Montrer qu'il fait plus que ce qu'il dit. Et tout l'évangile de Marc est là pour montrer les actions de Christ qui sont la démonstration qu'il est bien le Fils de Dieu. Il y a au total, dans ces 16 chapitres, 18 miracles qui sont présentés. 4 et seulement 4 paraboles. 39 fois, il y a mention cependant que Jésus enseigne ou qu'il est enseignant. Mais c'est jamais des longs discours. On n'a pas le sermon sur la montagne qu'on trouve dans Matthieu du chapitre 5 au chapitre 8. On n'a pas le long discours de Jésus de Jean 13 jusqu'à la prière sacerdotale de Jean 17. Les interventions de Jésus dans Marc sont courtes. Et c'est là où ça en fait un évangile intéressant et qui va nous maintenir éveillés. Est-ce que vous êtes éveillés ce matin, malgré le changement d'heure ? Parce que Marc, on le connaît en fait assez peu, mais on le connaît un petit peu lorsqu'on parcourt le Nouveau Testament. Marc, c'est un surnom. Son nom, il semblerait que ce soit plutôt Jean, à tel point que voilà, on peut l'appeler Jean-Marc. Jean-Marc, il a eu l'occasion de partir en mission avec Paul. Ça s'est pas bien passé. Paul l'a renvoyé. Barnabas, qui était avec Paul, a trouvé que c'était quand même super dur de la part de Paul et il a décidé de prendre Barnabas sous son aile et de continuer à travailler avec lui. Et selon la tradition, lorsque Marc écrit cet évangile, il s'est remis à travailler avec Paul. Il semblerait qu'il ait vraiment changé, évolué, et que Paul l'ait repris en considération. Et puis, il est en fait au service de l'apôtre Pierre, dont il est le secrétaire. À tel point que certains proposent même que cet évangile de Marc, en fait, c'est quelque part l'évangile de Pierre, l'apôtre Pierre, dont on a les épîtres. Pourquoi ? Parce que dans cet évangile, il est parfois mention de Pierre, mais de manière pas très avantageuse pour lui. Et à l'inverse, les fois où Pierre était plutôt mis en avant et avait tapé juste, c'est absent de Marc, c'est présent dans les autres évangiles. Vous savez que Pierre, c'était aussi quelqu'un de plutôt impulsif. Lorsque Jésus annonce qu'il va être crucifié, tout de suite il dit « Non, ça ne se passera pas, moi je vais m'opposer, etc. » Et puis en même temps, c'est le premier à renier Jésus lorsqu'il est sur le point de se faire crucifier. Pierre, c'est donc quelqu'un d'actif, et on comprend dans cet évangile de Marc qu'on a vraiment de l'action et que ça reflète aussi ce caractère de Pierre. Dans cette première introduction, j'aimerais insister sur quelque chose concernant Marc et qui est encourageant pour nous. C'est que Marc, au final, dans le livre des Actes, est présenté comme un serviteur. Mais un serviteur qui n'a pas bien réussi sa mission. Paul le renvoie chez lui en disant « Non, je ne peux pas continuer à voyager, annoncer l'évangile avec moi parce que tu es un boulet et que tu me freines et que ça me crée plus de problèmes que de solutions. » Et comment, quand quelqu'un vous dit comme cela que vous ne faites pas l'affaire et qu'on va se passer de vous, c'est quoi la réaction que vous pouvez avoir? Et ce qui est chouette, c'est de voir que Marc, qui aurait pu dire « Ok, c'est comme ça », eh ben, c'est terminé, je vais retourner m'occuper de mes moutons et puis qu'on ne vienne plus me déranger. Mais on revoit Marc plus tard qui est là et qui est de nouveau au service de Paul, qui est au service de Pierre, qui a poursuivi et qui a changé en fait et qui a grandi. Et ça, c'est extraordinaire parce que grâce au travail notamment de Barnabas qui a encouragé Marc, on voit que Marc a changé. Et c'est encourageant pour nous parce que nous aussi, même si parfois il peut y avoir des moments où on nous dit qu'on n'est pas à la hauteur ou que ce qu'on fait n'est pas bien, ça nous encourage à se dire ok, c'est l'occasion de grandir et c'est l'occasion de pouvoir peut-être continuer à travailler sur nous-mêmes. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. À qui Marc écrit cet évangile? On pense que Marc a écrit cet évangile alors qu'il est à Rome, et certainement qu'il écrit en fait aux Romains. Aux chrétiens convertis, enfin aux païens convertis, aux chrétiens de Rome. Et d'ailleurs, c'est pratique parce qu'à partir du moment où on écrit quelque chose à Rome, ça se diffuse rapidement dans tout l'Empire, puisque vous savez que si toutes les routes mènent à Rome, l'inverse est vrai aussi. Et donc, ce livre de l'action et de la rapidité est parfait pour les Romains. Pourquoi? Parce que les Romains, dans leur philosophie de vie, ont un esprit d'action, d'activité, de réactivité. Ils ne sont pas comme les Grecs, qui aimaient beaucoup philosopher, discuter, débattre. C'est ce qu'on voit dans Actes 17. Et l'évangile qui est adapté pour les Grecs, c'est l'évangile de Luc. Ils ne sont pas comme les Juifs, qui avaient besoin que tout ce qu'on leur annonçait soit justifié par les références à l'Ancien Testament, aux Écritures. Ça, c'est l'évangile de Matthieu. Dans Marc, il n'y a que deux références à l'Ancien Testament et ils sont dans les versets qu'on vient de lire. Ce n'est pas comme l'évangile de Jean, qui est là pour surtout parler aux chrétiens qui ont déjà avancé avec Jésus et qui ont besoin d'être renforcés dans leur conviction que Jésus est Dieu, que d'avoir des informations sur le futur de l'Église, etc., etc. Non, Marc s'adresse aux Romains, à des païens convertis, qui sont dans un contexte particulier, puisqu'on estime que Marc a écrit son évangile dans les années 60 après Jésus-Christ. Et dans les années 60 après Jésus-Christ, il y a un empereur à Rome qui s'appelle Néron. Et ce qu'on sait de Néron, c'est qu'en 64, il a lancé une énorme vague de persécution qui a touché les chrétiens. Pierre et Paul en ont fait les frais, puisqu'ils sont exécutés avant la fin des années 60. Marc écrit aux Romains dans ce contexte, et s'il leur parle de Jésus comme le serviteur, c'est celui qui encaisse les coups. Mais c'est aussi, il présente aussi Jésus comme un serviteur souffrant. Et il veut, à travers ce modèle du serviteur souffrant, encourager les chrétiens de Rome. Cela nous mène au titre du livre. Quel est le titre du livre de Marc? Vous allez me dire, c'est l'évangile selon Marc. En fait, non. Parce que il n'y a pas d'entête sur cet évangile. Son titre, il se trouve dans la première phrase. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. voici le commencement. Commencement ou début. Bref, Marc nous dit, je vais vous raconter, il était une fois, et voici l'histoire qu'il va raconter. Mais contrairement à certains contes célèbres, il ne nous dit pas, il était une fois, il nous dit, il était une fois l'évangile. Voici le commencement de l'évangile, de Jésus-Christ, fils de Dieu. Il y a des choses à dire là-dessus, puisque Marc affirme dès le départ qu'il va raconter l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangile ça veut dire bonne nouvelle, de Jésus-Christ, Christ c'est le Messie. Donc il affirme qu'il a une bonne nouvelle, qu'elle est au sujet du Messie, et que ce Messie c'est le Fils de Dieu. Et ces affirmations montrent que Marc écrit au sujet d'une personne particulière. C'est renforcé lorsque, à la fin de son évangile, le centurion qui est au pied de la croix s'écrit, ah ouais, en voyant Jésus expirer, il dit, ah oui, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Marc est convaincu que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu, et il veut partager cela aux Romains qui le lisent. D'ailleurs, à la fin, dans Marc 16, il cite toute une foule de témoins enthousiastes qui sont motivés pour faire comme lui a fait, puisque Jésus leur dit, chapitre 16, verset 15, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Marc nous présente donc un sauveur, nous présente le Messie, celui que les Juifs attendaient, mais qui est le Fils de Dieu et qui a une singularité particulière. Alors, j'aimerais vous parler de cette singularité dans ce livre, puisque dans ces versets 1 à 11, on voit en particulier l'identité de ce serviteur. Il y a sept éléments que j'aimerais relever. Premièrement, Marc, dans ces 11 premiers versets, on voit quatre témoins qui sont là pour affirmer que Jésus est bien le Messie et le Christ. Quatre témoins humains. Le premier de ces témoins, j'en ai déjà parlé, c'est Marc lui-même. Les deux autres témoins, ce sont les prophètes que Marc cite dans les premiers versets. Puisque voici ce qu'il écrit. « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Il s'agit de deux citations tirées de Malachie et d'Ésaïe, qui sont deux prophètes dont on peut retrouver les écrits dans l'Ancien Testament. Malachie, il a écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ, Ésaïe au 8e siècle avant Jésus-Christ, et dans leur contexte, ces phrases font référence au peuple de Dieu qui est appelé à s'approcher de Dieu. Et ces phrases que Marc cite ici sont là pour rappeler que le peuple juif a besoin de s'approcher de Dieu et que ça y est, Dieu s'approche aussi d'eux. Et ça, c'est tellement encourageant parce que parfois, on se dit, mais où est Dieu et que fait Dieu dans ce que je vis? Et pourtant, ici, Marc nous rappelle que Dieu a fait une démarche pour venir vers nous et se révéler à nous. Maintenant, cette démarche, elle repose aussi sur un quatrième témoin qui est Jean. Jean est aussi un des témoins qui présente l'identité de Jésus ici. Alors Jean, qu'on appelle aussi Jean-Baptiste, puisqu'il est connu pour avoir baptisé des gens dans le Jourdain, Jean est présenté comme le préparateur des cœurs. C'est celui qui est là justement pour préparer le chemin, pour préparer la voie au Messie qui doit arriver et à Jésus qui doit arriver. Et Jean, il insiste sur l'importance du baptême de repentance en vue du pardon des péchés. Il est là pour montrer qu'il y a besoin de changer d'attitude et de changer d'habitude pour pouvoir accueillir le Messie. Et il atteste la divinité de Jésus parce qu'il affirme qu'au verset 8, que lui, il baptise d'eau, mais qu'il baptisera du Saint-Esprit. Et là, je fais juste une petite remarque aussi sur Jean-Baptiste. Il est présenté quand même de manière singulière. Il est vêtu en poils de chameau, une ceinture de cuir autour de la taille, et se nourrissait de sauterelles de miel sauvage. Mais ce qui est frappant, en fait, c'est pas tant ça, c'est que malgré cela, on voit qu'il a un succès énorme, puisque on nous dit que au verset 4 et 5, Jésus baptisé dans le désert, baptisé dans le désert, prêchait le baptême de repentance pour le don de péché. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, et reconnaissant publiquement leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Quel succès à contre-courant de tout ce qu'on pourrait imaginer. Il faisait pas un concert de rock extraordinaire pour attirer les gens. Il avait vraiment rien pour attirer. Et pourtant, eh bien, les gens étaient touchés par son message et venaient à lui. Et même dans le désert. C'est pour ça qu'il est surnommé la voix de celui qui crie dans le désert. Et moi, ça m'encourage parce que parfois, je me dis, mais où est Dieu dans ce que je vis? Est-ce que Dieu s'intéresse à ce que je traverse et à ce que je vis? Mais la réponse, en fait, c'est oui, puisque Dieu est là dans le désert, et Dieu a des choses à dire, même dans le désert. Et parfois, c'est simplement moi qui peut-être ne fais pas la démarche d'aller dans le désert pour venir dans le silence et dans le calme rencontrer Jésus et demander à Jésus de me parler. Marc, d'autre part, renforce la présentation de l'identité de Jésus en soulignant trois actions. Ces trois actions, on les voit ici. D'une part, Jésus a été baptisé. Ensuite, il voit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui. Et il entend une voix qui descend du ciel et qui lui dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Ces trois actions, Jésus reçoit le baptême, Jésus reçoit l'Esprit, Jésus reçoit l'approbation divine, sont intéressantes à analyser pour deux raisons. Premièrement, le baptême. Comment expliquer que Jean prêche un baptême de repentance pour le pardon des péchés? Comment expliquer que Jésus vienne là? Jésus n'a pas de péché, il ne vient pas pour obtenir le pardon de ses péchés. D'ailleurs, il n'est absolument pas fait mention, contrairement au reste du peuple, qu'il confesse quoi que ce soit, il n'a rien à confesser. Jésus montre par là, tout simplement, qu'il est pleinement homme et qu'il se soumet à une étape indispensable de la vie de disciple et de la vie d'être humain qui veut être réconcilié avec Dieu. Jésus se soumet à cette étape et il veut montrer qu'il est un modèle pour nous et pour les Juifs à qui il s'adresse, qui sont appelés aussi à faire comme lui. Deuxièmement, il reçoit l'Esprit. Est-ce que Jésus n'avait pas l'Esprit avant? Là encore, la réponse est non, Jésus avait déjà l'Esprit. Donc cette réception de l'Esprit est simplement un symbole qui rappelle qu'il est le Messie choisi spécifiquement par Dieu. Et puis en même temps, ça anticipe ce qui va se passer à la Pentecôte lorsque les premiers disciples vont aussi recevoir l'Esprit. Il reçoit enfin l'approbation divine. Est-ce que Jésus n'était pas approuvé avant d'avoir... Bien sûr que non. Jésus était déjà approuvé, mais là, de manière tangible, Jésus est approuvé par Dieu et Jean-Baptiste et ceux qui sont autour peuvent entendre cette voix. Autrement dit, on peut comprendre qu'ici, la Trinité est réunie pour valoriser le Fils. L'Esprit, le Père, Jésus lui-même sont là ensemble. Dieu se révèle en trois personnes, mais c'est par Christ que l'homme peut le rencontrer. Et c'est par Christ que je peux rencontrer Dieu. Marc, en fait, anticipe tout ce qu'il va développer dans son évangile. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est présente ici dans simplement ces trois actions que l'on peut décrire ici. Dieu a une bonne nouvelle pour ma vie, c'est que Christ est un modèle pour moi, c'est que Christ est là pour que je puisse recevoir l'Esprit qui est le symbole de ma réconciliation avec Dieu, et Christ est là pour que je puisse moi aussi entendre Dieu me parler et de faire partie de la famille de Dieu. Mais, et ce sera le dernier aspect de ce que je voulais partager sur ces versets 1 à 11, il y a une insistance particulière dans ce passage sur le chemin à suivre pour pouvoir être réconcilié avec Dieu. Est-ce que vous avez remarqué que les trois premiers mots de ce passage, c'est « voici le commencement ». Et bien sûr, ça fait une référence directe au premier mot de la Bible. Les deux premiers mots, « au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Ici, « voici le commencement ». Et qu'est-ce qui se passe dans les trois premiers chapitres de la Bible ? Eh bien, c'est l'histoire à la fois du commencement de l'humanité, mais c'est aussi l'histoire d'une relation brisée avec Dieu. Adam et Ève pêchent et sont chassés loin du jardin d'Éden, et c'est la fin de leur communion avec Dieu. Ici, Marc veut donc expliquer comment on peut rétablir cette relation avec Dieu. Comment cette relation brisée entre Dieu et les hommes peut être réparée. C'est l'espoir extraordinaire d'un nouveau commencement, et il le fait en présentant, dès la première phrase, Jésus, Christ, le Fils de Dieu, comme celui par lequel on va pouvoir être réconcilié. Quel chemin pour aller vers cette réconciliation, pour aller vers ce Sauveur ? Eh bien, c'est le chemin offert par Jean-Baptiste, le baptême de repentance. D'où il vient ce baptême de repentance proposé par Jean ? On n'a pas beaucoup de références dans l'Ancien Testament. Si ce n'est un détail, Jean baptisait dans le Jourdain. Et on a une histoire célèbre de quelqu'un qui a été se tremper 7 fois dans l'eau dans le Jourdain pour pouvoir être guéri de la lèpre. C'était un officier de Syrie, du royaume de Syrie, qui s'appelait Naaman, et qui a pu, en se trempant dans le Jourdain 7 fois, être guéri de sa lèpre. Or, juste pour rappel, la lèpre est un symbole du péché dans l'Ancien Testament, et donc le fait d'être lépreux, c'était une conséquence du péché ou une marque du péché. Dans le Jourdain, cet officier a été purifié. Ce baptême de repentance dans le Jourdain, c'est donc un symbole de cette purification des péchés. Et en même temps, c'est dans le Jourdain. Et j'aime bien cette image parce que le Jourdain, c'est quoi ? Quand on regarde une carte de la Palestine, le Jourdain sépare à l'ouest, entre le Jourdain et la mer, donc le Jourdain, c'est les grandes rivières nord-sud, entre le Jourdain et la mer Méditerranée, il y a la Palestine, c'est là où le peuple d'Israël habite. À l'est du Jourdain, du côté de la Syrie, c'est ce qui est considéré dans la Bible comme le territoire des païens, le territoire qui n'était pas la terre promise. Or, se faire baptiser dans le Jourdain, c'est donc témoigner de quelque chose d'extraordinaire, à la fois à l'ouest au peuple de Dieu, et à la fois à l'est, aux païens qui pouvaient aussi voir ce qui se passait. Et ce que Jean ici fait, c'est de rappeler que ce baptême de repentance, il doit se faire aux yeux et au-dessus du monde entier. D'ailleurs, notre passage mentionne que les personnes qui venaient se faire baptiser dans le Jourdain ne venaient pas juste faire la queue, plouf dans l'eau, ressortir, ils devaient confesser publiquement leurs péchés. Alors c'est quoi la repentance ? Comment on peut la comprendre aujourd'hui ? La repentance, c'est la tristesse que l'on éprouve pour ce que l'on a fait et qui a pu offenser Dieu. Et cette repentance, elle est indissociable de la foi en Christ. Ce qui veut dire que la repentance est à la fois la tristesse de ce qu'on a fait qui a pu offenser Dieu, mais c'est en même temps l'engagement de vouloir changer de pensée, de vouloir changer de manière d'agir. C'est donc le témoignage d'une transformation radicale d'une personne qui renonce à des attitudes et à des habitudes qui n'honorent pas Dieu pour adopter un nouveau comportement. Se repentir, c'est se détourner de quoi ? On vient de le dire, c'est se détourner de ses péchés. Alors, ce qui est extraordinaire à travers ce principe de la repentance, c'est que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Ce que Jésus propose, c'est qu'une autre vie est possible, c'est qu'on peut changer, c'est qu'on n'est pas obligé de rester dans une situation de vie où on se sent souillé, où on se sent esclave de nos habitudes et de nos attitudes. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire une discrétion à ce sujet parce que au jour d'aujourd'hui, si je parle autour de moi du péché, on peut très bien me dire tout de suite, et je peux d'ailleurs, même si on discute entre nous, avec Nasser, ce serait facile de le faire. Qu'est-ce qu'un péché pour toi, Nasser ? Qu'est-ce qu'un péché pour moi ? Qu'est-ce qu'un péché pour toi, Quentin ? Peut-être qu'on n'aura pas tout à fait la même réponse en fonction de notre culture de vie, en fonction de notre caractère. On pourrait penser que, je sais pas moi, pour un Lyonnais, traverser la route quand le feu piéton est rouge, il n'y a pas de problème. Si tu fais ça en Allemagne, là c'est bon, t'es affiché direct. Donc il y a une certaine relativité par rapport à ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Sauf que le péché, en fait, n'est pas défini en fonction de ce que moi je pense de bien ou de mal. Il est défini en fonction de ce que la Bible dit qui est correct, qui honore Dieu, qui n'honore pas Dieu. Et ça, c'est important à avoir en tête pour se recentrer sur ce que cela signifie que d'offenser Dieu ou de déshonorer Dieu. Mes émotions ou mon sentiment ou mes sentiments ou mes parents qui décident ce qui va déplaire à Dieu. Non, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'on a la Bible qui est là pour nous dire ce qui peut honorer Dieu et ce qui peut déshonorer Dieu. Et parfois, il y a même des sujets sur lesquels c'est très clair, il n'y a pas de question, c'est blanc ou noir. Et puis, il y a parfois des sujets sur lesquels c'est moins clair parce que il y a des sujets sur lesquels la Bible n'a pas de réponse définitive. Et c'est là où on a besoin aussi d'en discuter ensemble et d'échanger ensemble pour pouvoir avancer là-dessus. Je ferme cette parenthèse en insistant sur le fait qu'il y a une chose qui est très claire, c'est que la Bible affirme à plusieurs reprises que tous ont péché. Quel que je sois allemand, que je sois français, je suis un pécheur. Comme Adam a été le premier de ses pécheurs et a vu sa relation avec Dieu brisée, je suis aussi comme pécheur dans une situation où je suis éloigné de Dieu et j'ai besoin d'être réconcilié. La repentance est un des chemins vers cette réconciliation. Alors, parfois on présente la repentance comme un cheminement à suivre qui peut procéder par plusieurs étapes. La conviction, tout d'abord, que ce que j'ai fait a déshonoré Dieu. Deuxièmement, la confession, c'est-à-dire de reconnaître, dire à Dieu, ça peut être même à une personne en qui j'ai confiance, que ce que j'ai fait a déshonoré Dieu. Deuxièmement, l'abandon, considérer que ce que j'ai fait, c'est terminé, je n'ai plus à le faire. Enfin, la soumission à Dieu, en disant maintenant, je veux vivre d'une manière qui te plaise et qui t'honore. Et enfin, la transformation, puisque, comme Franz l'a rappelé il y a 15 jours, à force de prendre de bonnes habitudes, on voit notre caractère transformé et on vit d'une manière différente. Alors, dit comme ça, bien sûr, ça peut donner l'impression d'une une sorte de recette miracle, ce qui n'est pas l'objectif. Mais j'aimerais quand même insister sur un aspect, c'est qu'il me semble que dans notre cheminement chrétien, la repentance est un ingrédient nécessaire à notre vie et à notre santé spirituelle. Lorsqu'on lit des biographies de Saint Augustin, 4e siècle avant Jésus-Christ, de Martin Luther au 16e siècle, de John Wesley au XVIIIe siècle, tous racontent leur expérience de brisement, la manière dont Dieu s'est révélé à eux et leur a mis devant les yeux l'incroyable saleté de leur péché et à quel point ils étaient séparés de Dieu, ils avaient besoin de se repentir. Et en même temps, il n'y a pas de manière particulière. Certains racontent qu'en étant mis face à leur péché, ils sont mis à pleurer. Moi, je n'ai jamais pleuré par rapport à ça, mais mon cœur a été attristé. Il y a différentes manières de le vivre, il n'y a pas de manière unique, mais ça fait partie des étapes de la vie chrétienne. Peut-être vous avez entendu parler de... Hop là, stop. Peut-être vous avez entendu parler de Suzanne Noémie. Au culte en commun, à la Bourse du Travail, le 26 février, Suzanne Noémie, qui est une Lyonnaise, est venue partager son témoignage. Elle a raconté que, venant d'une famille athée, pour elle, c'était hors de question d'entendre parler de Dieu, et voire même, c'était une famille qui était militante pour taper sur la religion et sur les religions. Et en fait, elle a raconté comment sa vie a été transformée, touchée par Jésus, et comment elle s'est réconciliée avec Dieu. Son témoignage est disponible sur YouTube. Et en fait, je vous encourage à le regarder parce que c'est touchant. Il y a un petit commentaire aussi sous la vidéo qui est aussi très intéressant à lire. Aujourd'hui, en 2023, il y a des personnes qui voient leur vie transformée et qui témoignent de ce que la repentance, comment elle s'applique aussi dans leur vie. Alors elle, c'était 2020, elle raconte ça maintenant, mais... La repentance est importante parce qu'elle dispose notre cœur à l'acceptation de ce que Christ a fait et de ce que Christ a acquis à la croix. Et comme dit Jean dans son épître, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Cette habitude de vie est donc saine pour nous pour garder notre relation avec Dieu. Est-ce que la repentance, c'est quelque chose qui se fait une fois pour toutes, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire toute la vie? Alors, je ne vais pas répondre tout de suite à cette question, mais je veux juste rappeler à qui Marc s'adresse. Marc parle aux Romains, qui justement, dans le contexte du début du 1er siècle, là, les Romains, ils se prennent un peu pour le roi du monde, pour les rois du monde. Bon, ce qui n'est pas faux, ils ont un peu conquis tout le monde connu d'alors, ok. Mais vraiment, être romain, habiter à Rome, c'est comme habiter à New York, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment être le roi du monde. Donc peut-être que Marc veut s'adresser à des Romains qui ont besoin de se repentir de leur orgueil. Justement, le thème du serviteur pour des Romains, c'est quelque chose qu'ils ont besoin d'entendre. En même temps, Marc cite Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui s'adresse aux Juifs. Aux Juifs qui attendent depuis longtemps une délivrance. Surtout une délivrance politique de la part des Romains qui les oppressent. Et en même temps, ce que Jean leur dit, c'est que oui, cette délivrance peut venir à condition que vous soyez dans un meilleur état spirituel, parce que votre état spirituel vous empêche d'obtenir cette délivrance. Les Juifs de Palestine à cette époque-là ont besoin de se repentir de leur incapacité à obéir à la loi de Dieu. Les Juifs, les Romains, mais Paul s'adresse aussi à des chrétiens, puisqu'il s'adresse à des chrétiens de Rome, qui ont besoin aussi de se repentir parce qu'ils ont besoin de comprendre et de saisir l'importance de conserver une relation saine avec Christ. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Martin Niemöller? C'est un pasteur allemand qui, dans les années 1930, après avoir été en tout premier lieu favorable à l'avènement du national-socialisme et à la montée d'Hitler au pouvoir, est devenu assez rapidement un des opposants les plus en vue aux nazis. Niemöller a été une des chevilles ouvrières d'un groupe de chrétiens et de pasteurs qui s'est opposé à la doctrine nazie, à tel point que dès 1937, il a été arrêté par la police secrète, la Gestapo, et envoyé dans un camp de concentration où il est resté jusqu'en 1945, donc 37-45, 8 ans de camp de concentration. Il a miraculeusement survécu, et plus tard, celui que on pourrait qualifier de héros a écrit ceci. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Martin Niemöller aurait très bien pu mettre en avant son héroïsme et se glorifier de son action en tant qu'opposant à Hitler. Mais au contraire, qu'est-ce qu'il garde de cette après-guerre, le sentiment qu'il a été lâche et qu'il ne s'est pas engagé suffisamment tôt contre les nazis. Ce sentiment d'inachevé et de ne pas avoir agi correctement me fait penser à ce que signifie pour une vie chrétienne saine la réalité de ma relation avec Dieu. Pour que Christ puisse agir en moi et être puissant en moi, j'ai besoin de réaliser que je ne suis pas à la hauteur et que ce que je fais, ce que je dis, ce que je propose n'est pas à la hauteur de ce que je devrais faire et ne sera jamais à la hauteur de ce que je devrais faire. À tel point que dans Marc, le verset clé au centre de cet évangile, c'est celui-ci. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà ce que Marc nous propose dans cet évangile. Nous montrer que Christ est un serviteur et que Christ, comment ce serviteur va transformer notre vie? Eh bien, en donnant sa vie pour que nous soyons sauvés. De la même manière, comment est-ce que Christ désire que je participe à son plan merveilleux, à cette bonne nouvelle d'une vie transformée? Eh bien, c'est en étant aussi son serviteur et en donnant aussi ma vie pour lui. Est-ce que on peut dire que ici, Marc nous challenge en nous montrant que, alors que lui-même était un serviteur qui a été rejeté par Paul et qui finalement est devenu utile, nous sommes aussi appelés à ne pas rester pour toute notre vie spectateurs de ce que Jésus a fait. Mais nous sommes aussi appelés à devenir serviteurs de Jésus. De la même manière, Marc nous lance le défi en nous disant qu'un serviteur est appelé à grandir, est appelé à voir sa vie évoluer. Au départ, Marc était un accompagnant de Paul, mais à la fin de sa vie, il est un des rédacteurs des quatre évangiles. Et enfin, Marc nous montre ce modèle qu'est la vie de Marc à travers l'idée que encourager les autres est quelque chose d'extrêmement puissant. Comme Barnabas a pu encourager Marc et a pu le faire sortir du trou où il était après avoir été rejeté par Paul, eh bien, Marc est devenu un serviteur puissant. Et de la même manière où nous aussi, nous pouvons aussi nous encourager les uns les autres et nous motiver à aller de l'avant et à nous relever lorsque nous tombons. Mais ce qui est le plus extraordinaire dans cette introduction au livre de Marc, c'est que si c'est la réponse à cette question. Jean-Baptiste affirme que son baptême est un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et on peut aller plus loin en disant, mais alors, est-ce que le pardon des péchés dépend de ma repentance ou dépend de ce que Christ a fait à la croix? Et bien, la réponse est les deux. Les deux parce que ma repentance n'est pas indissociable de la foi que j'ai dans ce que Christ a fait à la croix. Ce n'est pas ma repentance qui me sauve, c'est tout ce que Christ a fait. Et même la repentance, les Écritures nous disent qu'elle nous est donnée par Dieu lui-même. Mais à un moment donné, je dois répondre et dire « Oui Seigneur, je viens vers toi et j'ai besoin de me repentir pour être réconcilié avec toi. » Et Dieu utilise cela pour que je sois réconcilié avec lui grâce à ce que Christ a fait à la croix. Et cela nous pousse à contempler Christ et à l'admirer, à s'émerveiller dans ce qu'il a fait, lui le serviteur, qui a été sur la croix pour mourir pour nous, pour que nous puissions prendre conscience du prix incroyable qu'il a payé pour réparer notre relation avec Dieu, pour que notre repentance ne soit pas simplement le « pardon maman, parce que j'ai pas écouté quand tu m'as dit de venir tout de suite, tout à l'heure », mais que notre repentance prenne une dimension nouvelle lorsqu'elle est, elle est au bénéfice de ce que Christ a fait à la croix et à son œuvre de salut. Et au final, on peut juste être dans le silence, dans l'adoration, devant un plan si extraordinaire. Lorsqu'en 1931, Gandhi est venu en Europe pour se rendre au Royaume-Uni, où il devait rencontrer le roi d'Angleterre. Les journalistes lui ont demandé si sa tenue était appropriée pour rencontrer le roi d'Angleterre. Gandhi a répondu « Ne vous inquiétez pas, le roi a assez de vêtements sur lui pour nous deux. » Et c'est cela dont nous avons besoin aussi de réaliser avec Christ, c'est que oui, je ne suis pas digne de venir vers Christ. Et je ne mérite pas son amour, mais quand je viens vers lui, il a tout ce qu'il faut pour lui et pour moi, pour que je sois digne d'être dans sa présence. Je peux penser que je mérite de venir vers Dieu, mais non, je ne mérite rien du tout. C'est bien lui qui a tout ce qu'il faut pour que je puisse être dans sa présence. Alors bien sûr, on va pouvoir continuer à voir ce message extraordinaire dans la suite de Marc. Et la prochaine fois, on parlera des versets 12 à 28 qui nous montreront l'autorité du serviteur.